Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, François Geffrier.
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. À la une ce soir, un préfet qui en remplace un autre, des amendes 4 fois plus lourdes et tout un attirail policier de drones, de vidéos et de produits marquants. Édouard Philippe, Premier ministre, a affiché sa fermeté face au dérapage violent de l'acte 18 des Gilets jaunes samedi. Quoi de vraiment nouveau, lui demande ce soir sur Europe 1 le monsieur sécurité de la droite, Éric Ciotti. Vous entendrez aussi Didier Chenet, représentant des hôteliers, satisfait ce soir d'une autre annonce du gouvernement, celle du soutien du ministère de l'économie aux commerçants touchés par les perturbations des gilets jaunes. Dans ce journal, la fin de la traque du tueur d'Utrecht aux Pays-Bas. Un homme qui a tiré dans un tramway ce matin faisant 3 morts et 5 blessés et qui n'a été arrêté qu'en fin d'après-midi. On se demande encore pourquoi il a commis son geste. Monseigneur Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, reçu par le pape François à Rome pour lui remettre sa démission. Le pape va-t-il l'accepter? C'est toute la question. Une grève dans l'éducation nationale demain mardi, ça s'annonce assez suivi dans le primaire selon les syndicats. 4 profs sur 10 seront grévistes, prenez vos précautions. Et puis du foot, avec la voix de Didier Deschamps à la fin de ce journal, le sélectionneur de l'équipe de France a parlé aux journalistes à 4 jours de France-Moldavie en éliminatoire de l'Euro 2020. Ensuite, vous connaissez le programme d'Europe Nuit, la météo d'Hélène Morna, le point complet sur la journée à la Bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, puis l'invité écho d'Emmanuel Duteil ce soir, le patron du drugstore Publicis, commerce célèbre du haut de l'avenue des Champs-Élysées.
Europe 1.
Un Premier ministre droit dans ses bottes, flanqué de 4 ministres dans un salon de l'hôtel Matignon. Édouard Philippe a présenté la réponse du gouvernement aux violences de samedi dernier lors de l'acte 18 des Gilets jaunes. C'était juste avant 17h cet après-midi en direct lors d'une prise de parole assez solennelle.
Les événements survenus à Paris samedi dernier, en particulier sur les Champs-Élysées, sont intolérables et le président de la République a demandé au gouvernement d'apporter une réponse à la hauteur des enjeux. Dès samedi prochain et chaque fois qu'il le faudra. Nous interdirons les manifestations se revendiquant des gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultra et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse. Dans ce cadre, nous procéderons à la dispersion immédiate de tous les attroupements. Cette nouvelle stratégie se traduira par des mouvements à la tête de la préfecture de police. Mercredi, en Conseil des ministres, le président de la République nommera préfet de police M. Didier Lallement, actuel préfet de la Nouvelle-Aquitaine.
Édouard Philippe au micro, Europe 1 d'Aurélie Herbemont à Matignon. On entend donc plusieurs annonces. Le remplacement du préfet de police de Paris par le préfet de Bordeaux, Didier Lallement. La possibilité d'interdire les manifestations dans certains quartiers. Et la hausse des amendes pour ceux qui participent à une manifestation interdite. Un discours et des annonces qui n'ont pas convaincu Éric Ciotti. C'est le monsieur sécurité des Républicains. Et c'est le président du département des Alpes-Maritimes.
Ce sont des discours, on change les noms des unités d'intervention, on affiche une fermeté. Quoi de nouveau par rapport au discours que l'on entend de façon répétitive chaque fois depuis 18 samedis qu'il y a des violences? On nous dit une interdiction dans certaines rues, s'il y a des personnes violentes. Voilà, tout ça n'est pas très sérieux. Alors, je pense que samedi, en France, toute manifestation devrait être interdite par rapport à la situation de violence.
Éric Ciotti, joint pour Europe 1 par Adrien Beck. On a entendu depuis la fin d'après-midi le mot de fusible employé notamment par l'opposition pour évoquer le sort du préfet de police de Paris, Michel Delpech, limogé. Alain Acco, vous êtes le chef du service police-justice d'Europe 1. Cette fois, pour Michel Delpech, les débordements de samedi dernier ont été en quelque sorte la faute de trop.
Oui, ça faisait plusieurs semaines et même plusieurs mois que ce préfet de police, grand commis de l'État, était sur la sellette. Et pas seulement, il faut bien le dire, à cause de sa gestion des Gilets jaunes. L'affaire Benalla lui avait aussi valu de nombreux ennemis parmi les conseillers de l'Élysée qui n'avaient pas du tout apprécié qu'il se défende bec et ongles devant la commission d'enquête parlementaire, notamment devant le Sénat. Rien d'étonnant donc, après ce nouveau week-end de violence, que Michel Delpech serve de fusible. Il est remplacé par un préfet un peu plus jeune, 62 ans contre 66, mais surtout beaucoup plus dur. C'est en tout cas la réputation de Didier Lallement, actuel préfet de la Nouvelle-Aquitaine, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur, ancien directeur de l'administration pénitentiaire. Ceux qui l'ont côtoyé le décrivent comme un haut fonctionnaire tranchant qui sait décider. Les plus gentils disent de lui qu'il est un peu raide, les plus sévères que c'est un tueur sans état d'âme, entre guillemets, hein, bien sûr. Vous voyez un peu le personnage. Et d'ailleurs, du côté des hommes politiques, et notamment de la France insoumise, on ne s'y est pas trompé. On dénonce, c'est Jean-Luc Mélenchon hein, que je cite, on dénonce une prime aux violents qui a échoué en Gironde. Pourquoi dit ça Jean-Luc Mélenchon? Parce que il y a quelques semaines, un député de la France insoumise s'était plaint à Bordeaux d'avoir été matraqué par les policiers. Eh bien, le préfet, l'Allemand, nouveau préfet de police de Paris, avait alors répondu sur Twitter que les forces de l'ordre avaient correctement fait leur travail.
Merci Alain Accot pour cet éclairage Europe 1. Alors, il y a la réponse sécuritaire, il y a la question économique. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, recevait cet après-midi les représentants de plusieurs filières qui ont subi l'impact des dégradations. Il y aura des reports de charges jusqu'au 30 avril. Finalement, c'est un mois de plus que prévu. Bruno Le Maire annonce aussi la généralisation des brigades d'intervention. Alors, rien de policier là-dedans, ce sont des fonctionnaires du ministère, épaulés par des agents des chambres de commerce et d'industrie qui vont se déployer pour informer les commerçants des mesures qui existent. Cette annonce a été saluée par Didier Chenet, le président du groupement des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration.
Le problème, c'est qu'il y a des mesures qui ont été prises, de bonnes mesures qui ont été prises sur les étalements de charges, voire même sur, le ministre en a parlé, sur la suppression de charges. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop complexe pour bon nombre de nos adhérents. Ce sont des TPE. Vous savez, quand vous leur demandez de tout un tas de renseignements, c'est très compliqué. Et donc, quand ils sont seuls, qui plus est, quand ils ont toute leur activité à faire tourner, eh ben, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, si ces brigades peuvent être généralisées dans les villes qui ont été donc particulièrement marquées par donc ces manifestations, c'est une excellente chose.
Je compte sur elles pour effectivement informer nos commerçants.
Didier Chenet au micro Europe 1, d'Anne-Laure Jumet à Bercy cet après-midi. Je vous rappelle que le patron du drugstore Publicis, célèbre commerce situé tout en haut des Champs-Élysées, à quelques mètres de l'Arc de Triomphe, sera l'invité écho d'Emmanuel Duteil dans quelques minutes à 22h20. Pour l'instant, il est précisément 22h07. Dans un instant, la suite du journal avec la journée éprouvante qu'ont passé les Pays-Bas. L'homme soupçonné d'avoir tué 3 personnes en tirant dans un tramway a finalement été arrêté. A tout de suite.
Europe 1.
Belle vie.
On voit que tu reviens de croisière, toi. Moi, je peux pas, vu mes finances.
Il te suffirait de vendre en viager avec René Coste. Le viager, c'est une rente à vie en plus d'un capital pour toi et ta famille.
Une rente à vie?
Oui. Appelle René Coste Viager au 0800 960 900 pour une étude gratuite.
Attends, je note. René Coste Viager, 0800 960 900.
Et l'appel est gratuit.
René Coste Viager, le numéro 1 du viager en France.
La belle vie.
Aujourd'hui, je suis allé faire le plein. Mais si je vous dis pas un plein de quoi, là, c'est le vide. Un plein de course, utile. Un plein d'air pur, bucolique. Ou un plein d'essence. Moins poétique, hein.
Avec Nissan, plus besoin de passer à la pompe pour faire le plein. La Nissan Leaf 100% électrique d'occasion est à seulement 99€ par mois. Et jusqu'au 31 mars, pendant la quinzaine de l'occasion, découvrez d'autres offres exceptionnelles.
Nissan, innovez autrement.
Leaf Visia 24 kWh, occasion 3 ans, LLD premier loyer 5 000€, puis 48 loyers 99€ si accordiac. Détail Nissan.fr.
Le journal de la nuit, François Geffrier sur Europe 1.
Et merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 22h08. La journée a été assez effrayante pour les habitants des Pays-Bas. Après qu'un homme a tiré dans un tramway à Utrecht, faisant 3 morts et 5 blessés, les écoles, les bâtiments officiels, les mosquées ont été placées en alerte pendant de longues heures. Avant qu'on apprenne l'arrestation du suspect en fin d'après-midi, Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. On a parlé à un moment donné d'attaque terroriste. Mais à l'heure qu'il est, c'est nettement plus flou et on se pose encore beaucoup de questions.
Effectivement, François, le Premier ministre des Pays-Bas a fait un nouveau communiqué peu après 20h et il n'évoque plus la piste terroriste alors qu'il l'avait fait cet après-midi. Désormais, Mark Rutte précise que les motivations du tueur ne sont toujours pas claires et qu'il y a beaucoup de questions et de rumeurs. Les policiers ont arrêté le suspect peu avant 19h dans un appartement, à quelques minutes en voiture du lieu de la fusillade. Il s'agit d'un homme de 37 ans, il s'appelle Gökmen Tanis, il est né en Turquie. Un avis de recherche avait été lancé en début d'après-midi, accompagné d'une photo issue de la vidéosurveillance du tram. Le suspect est connu de la justice néerlandaise pour des faits de droit commun. Il est également sous le coup d'une enquête pour viol. Les médias néerlandais le décrivent comme un drogué instable. A priori, il n'était pas connu pour radicalisation. Ce soir, le parquet a donc évoqué plusieurs pistes. La piste terroriste reste ouverte. ouverte, mais la piste d'un drame familial est également étudiée, a indiqué le procureur d'Utrecht.
Isabelle Horry en ligne de Bruxelles pour Europe 1. Merci beaucoup Isabelle. Amnesty International France dénonce la livraison prochaine de 6 bateaux à la marine libyenne pour lutter contre l'immigration clandestine. Amnesty s'alarme auprès du gouvernement français des risques pour les droits de l'homme. Et c'est ce que nous apprend l'ONG ce lundi soir. Et puis de plus en plus de femmes à la rue et de moins en moins d'appels au 115, le numéro d'urgence pour les sans-abri. C'est ce que démontre l'analyse des résultats de la seconde nuit de la solidarité et qui a été organisée le mois dernier par la mairie de Paris. C'était le rendez-vous du jour au Vatican. Philippe Barbarin, cardinal archevêque de Lyon, reçu ce matin par le pape François. Aucune annonce immédiate. Le cardinal Barbarin avait annoncé son intention de remettre sa démission au souverain pontife après sa condamnation pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Condamnation dont il a fait appel. Virginie Riva, ce soir, c'est difficile de savoir ce que va décider le pape.
Nous ne savons rien de ce que les deux hommes ont pu se dire. Le pape n'a même peut-être pas pris sa décision. Au Vatican, on nous le disait, il est en plein dilemme. Il a pourtant devant lui plusieurs options. Accepter la démission, c'est ce que souhaite le cardinal lui-même. Ses proches nous l'ont dit, il est épuisé. Sa lettre de démission, il l'avait en fait envoyée 15 jours avant la décision de justice. Condamné ou pas, Philippe Barbarin ne voulait plus gérer son diocèse. Ce que redoutent le plus les proches de Barbarin, c'est que le pape refuse cette démission. François l'a toujours dit, il attend que la justice civile ait fait son travail. Le problème, c'est que Barbarin a fait appel de sa décision et que la décision finale pourrait arriver d'ici des mois, voire un an. Le pape peut enfin trouver une solution de compromis, nommer un administrateur en attendant la décision en appel. Une solution qui risque de ne satisfaire personne. Des membres de l'entourage de Philippe Barbarin le disent. Il faut que l'église de Lyon passe à autre chose. Le diocèse de Lyon qui a fait savoir la semaine dernière que le pape pourrait donner sa réponse d'ici plusieurs semaines et l'annoncer directement par téléphone au cardinal Barbarin.
Virginie Riva, spécialiste des questions de religion à Europe 1. Le beau-frère de Ben Ali, mis en examen et incarcéré à Marseille, présenté comme un quasi-mafieux par un câble diplomatique américain, Belhassen Trabelsi, beau-frère de Ben Ali, l'ancien président tunisien, a été mis en examen et incarcéré aujourd'hui à Marseille après 3 ans de cavale. Depuis sa fuite du Canada en 2016 où il était menacé d'extradition. Déclaré introuvable par la justice canadienne en juin 2016, le frère de l'ex-première dame tunisienne, a été arrêté la semaine dernière dans le sud de la France dans des circonstances encore inconnues. Aujourd'hui, il a été donc mis en examen pour faux aggravé et blanchiment en bande organisée.
22h, 22h30, le journal de la nuit, François Geffrier.
Écoutez bien ce qui suit si vous avez de jeunes enfants. Il y a une grève dans l'éducation nationale demain mardi. Le principal syndicat du primaire prévient les parents. 4 enseignants sur 10 ont annoncé qu'ils ne feraient pas classe, selon le SNUIPPFSU. Cette journée d'action vise à protester contre la politique éducative du gouvernement, notamment la loi sur l'école de la confiance votée le mois dernier et qui n'apporterait, selon le syndicat, aucun moyen supplémentaire à l'école, sauf dans le privé. Écoutez Camille Bastien qui représente le SNUIPP du Rhône.
C'est la fusion de plusieurs écoles primaires avec le collège de secteur. Ça permet bien sûr pour le gouvernement des économies d'échelle, hein, puisqu'on récupère des postes, on récupère des locaux. Et puis surtout, on supprime les directeurs, les directrices d'école. C'est le personnel du collège qui gère tout l'administratif. Donc on imagine demain que pour inscrire son enfant en petite section à 3 ans, il faut aller prendre rendez-vous avec le principal du collège. Ça paraît assez délirant et pourtant c'est ce qui est prévu dans cette loi. Nous on craint beaucoup pour la relation de proximité qu'on a avec les familles.
Camille Bastien du syndicat enseignants SNUIPP dans le Rhône. Elle répondait à Virginie Salmen pour Europe 1. On termine ce journal avec le sport, le football. France-Moldavie. A priori, c'est une affiche qui est à la portée de l'équipe de France. Championne du monde, faut-il le rappeler, c'est vendredi soir. Mais le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, est toujours fidèle à sa légendaire prudence.
Trop abordable. Par expérience et en regardant l'historique des qualifications de l'équipe de France, ça n'a jamais été un chemin tranquille. Donc il faut être méfiant, il n'y a pas de match idéal. On sait très bien que ça dépendra beaucoup de nous. Cette équipe moldave, chez elle, va jouer ses chances à fond. Ça sera à nous d'y mettre la détermination, l'engagement nécessaire pour faire la différence et aller chercher ces trois premiers points qui seront aussi importants que les 27 autres qui devront suivre.
Ouais, il y a 30 points à prendre, c'est bien de nous le rappeler. Didier Deschamps, micro Europe 1 de Jean-François Pérez. Il y a du foot ce soir en ce moment. Le Gazélec d'Ajaccio reçoit le Racing Club de Lens et de la Ligue 2. On en est à la combienième minute ? On en est à la 71e minute. Et il y a 1-0 pour Ajaccio qui reçoit donc Lens. Il s'agissait du dernier match de la 29e journée de Ligue 2. Bonsoir Elena Morna pour la météo. Vous nous annoncez pour demain le printemps dans le ciel en tout cas, car du côté du calendrier, officiellement, c'est plutôt mercredi.
Eh bien, c'est ça, François. Au moment pile de l'équinoxe, à savoir 22h58 exactement, mercredi 20. Alors avant, ce sera encore un peu l'hiver. Demain matin, par exemple, avec moins 5 degrés à Charleville-Mézières. C'est pas l'hiver, ça. Moins 2 à Verdun ou encore à Auxerre. Moins 1 à Orléans. 0 à Lille, Rouen et Vannes dans le Morbihan. 2 à Paris. 5 à Bordeaux, Toulouse et Marseille. Le tout sous un ciel partagé entre nuages, éclaircies et encore quelques averses, essentiellement en bord de Manche ou encore près des Pyrénées ou sur la Corse. Éclaircies plus belles sur les autres régions de la moitié est et des températures qui vont remonter un peu, pas beaucoup c'est vrai par rapport à aujourd'hui, de 10 degrés à Boulogne-sur-Mer demain après-midi jusqu'à 17 pour Nîmes et Marseille, 12 à Strasbourg, 13 à Caen, Paris, Nantes, Montluçon, Bordeaux, 14 pour Cahors, Lyon et Bastia. Mercredi, voilà les belles éclaircies printanières, sauf sur les bords de Manche sous les nuages. Nuages un peu moins présents jeudi, vendredi et des températures de plus en plus douces. Samedi, petite pluie toujours en bord de Manche, puis des éclaircies pour tous et c'est parti pour durer.
C'est parti pour durer. Merci Elena Morna. On vous retrouve à minuit pour un nouveau point météo.
Europe 1.
Dans un instant, on va prendre une autre température, celle des marchés financiers. Et il est 22h16, ce sera avec Claire Lemaître de Boursier.com. A tout de suite.
Europe 1, le journal de la nuit, François Geffrier.
Il est 22h17 sur Europe 1, le moment qu'attendent les passionnés de la bourse. On est avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir François.
Alors Wall Street démarre la semaine avec prudence, Claire.
Avec une petite hausse pour les indices, plus 0,25% pour le Dow Jones, 25 914 points. Le Nasdaq affiche un gain de 0,34%, 7 714 points. Une petite hausse donc avant une nouvelle réunion de la Fed, ce sera demain et mercredi. Alors on n'attend pas de hausse des taux cette fois, mais sans doute des indices sur la stratégie de la Banque centrale américaine. Du côté des valeurs, la séance a encore été éprouvante pour Boeing, moins 1,8% pour l'avionneur, en pleine crise de confiance après le crash de deux de ses appareils 737 Max. Boeing qui a d'ailleurs perdu 10% la semaine dernière. Problème de confiance aussi pour Facebook qui lâche encore 3,3%. Le réseau social subit des polémiques et des départs de dirigeants. C'est mieux pour Apple qui a présenté deux nouvelles tablettes, deux iPads qui semblent avoir séduit les investisseurs puisque le titre avance de 1%. Ça monte pour le pétrole au plus haut depuis 4 mois après la décision de l'OPEP et ses alliés de réduire au moins jusqu'en juin leur production. Le WTI gagne 1% et dépasse les 59 $. Et puis l'euro gagne 0,1% et s'échange contre 1,1342 $.
Alors à Paris, Claire, le CAC 40 a terminé lui quasiment à l'équilibre.
Oui, une toute petite hausse pour le CAC 40. Il grappille 0,14% à 5 413 points. C'est tout de même sa sixième séance dans le vert avec le soutien des valeurs bancaires. En Allemagne, Deutsche Bank a confirmé être en discussion avec sa rivale Commerzbank en vue d'une éventuelle fusion. Alors ça rassure des marchés inquiets par ses maillons faibles dans le paysage bancaire européen. Et à Paris, Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas en profitent et avancent d'environ 2%. Le secteur de la sidérurgie aussi a été recherché avec Aperam, ArcelorMittal, Eramet ou encore Vallourec. Une hausse dans le sillage de la progression des cours de l'acier.
Oui, alors en revanche, il y a cette quatrième séance consécutive dans le rouge pour Casino.
Casino qui perd encore près de 5%. Les résultats annuels du distributeur continuent à interroger les opérateurs et ils doutent de la capacité du groupe stéphanois à réduire sa dette. Les marchés européens montent ce soir, à l'exception de Francfort qui perd 0,2%. Londres gagne 0,1%, Bruxelles plus 0,6%, Madrid plus 0,7%, Milan plus 0,9%, Amsterdam est stable et le CAC 40 gagne 0,1%, 5 413 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître pour ce point complet. On retrouve toutes vos infos évidemment sur votre site boursier.com. Il est 22h19 sur Europe 1. Voici le moment de l'interview écho chaque soir avec vous, Emmanuel Duteil. Vous recevez ce soir Jacques Terzian, c'est le directeur général du Publicis Drugstore.
Bonsoir Jacques Terzian. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général du drugstore. C'est l'emblématique concept store du haut des Champs-Élysées. En tout cas, quand on regarde l'Arc de Triomphe, vous êtes quasiment au pied de l'Arc de Triomphe dans l'immeuble de Publicis. Alors, si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est bien évidemment pour faire un point sur ce qui s'est passé ce week-end avec cet événement des Gilets jaunes et toutes ces destructions qu'il y a pu y avoir sur les Champs-Élysées. On va commencer par l'actualité, c'est-à-dire par les annonces d'Édouard Philippe. On vient de l'entendre dans le journal de 22h. Le Premier ministre a annoncé, par exemple, qu'il n'y aurait plus le droit de manifester sur les Champs-Élysées si on voit des éléments, des ultras, comme on dit. Ça va dans le bon sens, j'imagine, pour
c'était
vous.
C'était la première des mesures qu'il fallait prendre. En tout cas, c'était la moindre des mesures à prendre.
Vous estimez qu'elle arrive trop tard ?
Je pense, oui. Elle arrive trop tard, parce que lorsqu'on vit 18 semaines d'affilée traumatisantes comme elles l'ont été, je pense qu'il était nécessaire de prendre cette décision.
Ça va enfin permettre que le commerce soit à peu près normal. Désolé d'être un peu pragmatique, mais en tout cas que les Champs-Élysées retrouvent le week-end une vie à peu près normale.
Le commerce a besoin de retrouver ses lettres de noblesse sur les Champs-Élysées. Nous sommes traumatisés. On a vécu 18 semaines difficiles. Tous nos personnels ont vécu des moments stressants et nous les en remercions d'ailleurs. C'est important pour nous de les remercier et de les avoir préservés parce que nous sommes dans le groupe Publicis, nous avons été préservés et nous avons la chance de l'être dans ce groupe.
Quand vous dites que vous avez été préservés, ça veut dire quoi ? C'est qu'à la moindre menace, vous avez encadré psychologiquement vos personnels ?
Nous avons préservé l'emploi de nos personnels, qui ont été formidables pendant cette période. Formidables de patience face à ce qui se passait dans la rue. Et je ne parle pas de tous les commerces qui sont sur les Champs-Élysées.
Puisque là, ce week-end, ça a été la dévastation. Édouard Philippe a parlé en tout d'une centaine de commerces, on va dire, qui ont eu des problèmes.
Absolument.
C'est bien évidemment rarissime, c'est peut-être même du jamais vu sur les Champs-Élysées.
Jamais vu.
Quel est l'état d'esprit même des commerçants avec lesquels vous pouvez parler ?
Écoutez, les commerçants sont touchés. Les grandes enseignes ont été cassées. Des petits commerçants ont été touchés. Ils ont souffert dans leur bien, ils sont en cessation d'activité pour beaucoup d'entre eux. Et c'est vraiment très difficile pour ces gens-là. Nous sommes un grand groupe, très bien.
Par exemple, chez vous, vous avez dû faire, vous, du chômage partiel
pour
vos équipes.
Nous avons eu recours à de l'activité partielle lorsqu'il était opportun de le faire, lorsque nous fermions totalement certaines journées, nous l'avons fait. Oui, absolument.
Comment vous estimez que ce symbole des Champs-Élysées, qui est en même temps le plus beau symbole de l'Union nationale quand on gagne la Coupe du Monde de football, deviennent le rassemblement de toutes ces violences chaque week-end. Comment vous l'expliquez, vous qui vivez, j'ai presque envie de dire, sur les Champs-Élysées ?
Comment on peut l'expliquer ? Les Champs-Élysées sont un symbole, comme vous le dites, et à ce titre-là, ils ont été utilisés, mal utilisés. On n'aurait jamais dû laisser les Champs-Élysées ouverts aux manifestations telles que ça a été fait. Ce symbole est le symbole aussi des touristes qui aujourd'hui vont disparaître ou vont du moins vont moins venir sur les Champs-Élysées. Donc le symbole était évident, il était à préserver.
D'un point de vue, c'est désolé d'être peut-être aussi pragmatique, mais je disais, vous êtes un concept store, pour ceux qui ne connaissent pas, on trouve des restaurants, une librairie, une pharmacie, une boulangerie, etc., etc. En termes de chiffre d'affaires, même si c'est bien évidemment pas le plus important, vous êtes en baisse de combien pour qu'on ait une petite idée depuis ces 18 semaines ?
Écoutez, sur l'année 2018, nous avons perdu l'équivalent d'1,5 million en perte sèche. À cause des Gilets jaunes et à cause des événements de la Coupe du Monde. On ajoute aux événements des Gilets jaunes la Coupe du Monde.
Sur l'année 2019 ?
Ça nous a coûté déjà 1 million.
Ah oui, donc 1 million de pertes.
Absolument.
Sur l'année 2019. Est-ce que, pour samedi dernier, vous aviez été prévenu du fait que ce serait peut-être beaucoup plus rude que les autres week-ends ?
Nous avons eu des informations comme quoi cela allait être beaucoup plus rude que les... En tout cas, que ça allait être rude, puisqu'il y avait un rassemblement. Mais nous n'avons pas été réellement, officiellement informé de l'ampleur de cette manifestation.
Vous n'avez par exemple pas demandé de fermer ?
On ne nous a pas demandé de fermer. Et on ne s'attendait pas à avoir des manifestants qui venaient équipés de tronçonneuses ou équipés d'éléments pour casser ou pour tuer.
C'est-à-dire que concrètement, vous, je rappelle, vous êtes le directeur général du drugstore. Ça s'est passé comment samedi ? Vous êtes là, vous voyez que c'est en train de dégénérer, vous prenez la décision de fermer. Pour qu'on imagine quand on vit cette situation de l'intérieur.
Écoutez, samedi, ça s'est passé. Nous avons commencé par ouvrir, mais avec très peu de clients, on a très vite fermé. Immédiatement, nous avons pris la décision de fermer. Et à partir de 11h jusqu'à 19h, ça n'a pas arrêté. Ouais. Ça n'a pas arrêté. Nous avons subi trois salves, deux violentes, une un petit peu moins violente, mais ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté.
Vous avez du personnel qui aujourd'hui vous dit « je ne veux plus venir travailler le week-end, c'est trop dur pour moi, je prends trop de risques, j'ai une famille ».
Nos personnels ont été traumatisés, ils ont été formidables, je tiens à les en remercier, je suis reconnaissant de leur attitude.
Vous appartenez-vous à un très gros groupe, hein.
Nous sommes fidèles à 100% du groupe.
Nous sommes Publicis, qui est l'un des plus grands groupes de la publicité au monde. Est-ce qu'à un moment, pourriez-vous dire, on est pris pour cible, on ferme tout le temps, on abandonne les Champs-Élysées? Quand vous disiez tout à l'heure, les Champs-Élysées...
Le drugstore est un symbole pour le groupe. Le groupe n'a pas vocation à développer une industrie du retail. Il est là pour faire de la communication. Nous sommes une vitrine du groupe. À ce titre-là, nous essayons d'assumer notre rôle le mieux possible et de jouer ce rôle. Et en même temps, le drugstore fait partie du patrimoine de Publicis. Donc il est important pour nous de le préserver et de le fructifier.
Eh ben merci beaucoup en tout cas Jacques Terzian, le directeur général du drugstore, célèbre concept store du Haut des Champs-Élysées au pied de l'Arc de Triomphe, était notre invité ce soir sur Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
22h20, c'est noté. Merci beaucoup Emmanuel Duteil. À demain. Dans un instant, vous connaissez le programme, les unes de la presse de demain. On va ouvrir les journaux ensemble. À tout de suite, il est 22h26. Il est 22h27, on est déjà demain matin dans votre kiosque, votre boîte aux lettres. Sur Europe 1 ce soir, voici quelques-uns des titres de la presse de ce mardi 19 mars 2019. Voici la une du Figaro d'abord. L'exécutif veut rétablir son autorité face aux casseurs. On voit cette photo prise cet après-midi, en fin d'après-midi. Édouard Philippe qui parle devant deux de ses ministres. Nicole Belloubet à sa droite, ministre de la Justice. Christophe Castaner à sa gauche, ministre de l'Intérieur. Après le regain de violence de samedi, le Premier ministre a annoncé le limogeage du préfet de police de Paris et l'interdiction de certaines manifestations. Et puis dans son éditorial, toujours à la une du Figaro, Vincent Trémollet de Villers parle de la loi des brutes et des vandales. Depuis trois mois, dit-il, chaque samedi, Paris est devenu une ZAD. Les saccages, jusqu'ici réservés aux marges, aux périphéries, ont fait jurisprudence. Ils investissent désormais les centres-villes à Toulouse, à Nantes ou à Bordeaux. La rage décomplexée et son cortège de tags, de flammes, de pillages, de chasse aux flics étend sa fumée noire. Voilà ce qu'on peut lire à la une du Figaro demain matin. À la une de l'Opinion, sécurité, les dessous d'un échec. Vous voyez que plusieurs quotidiens reviennent évidemment sur les annonces sécuritaires du Premier ministre Édouard Philippe. Le pouvoir exécutif a annoncé de nouvelles mesures pour répondre au dysfonctionnement du maintien de l'ordre. Et on voit ce dessin de presse à la une de l'Opinion. On voit le préfet de police qui dit « je connais bien la police ». On voit le ministre qui dit « je connais bien le président ». Et tout ça, ces deux hommes sont face à une personne qui leur fait un bilan de compétences. Christophe Castaner qui est caricaturé avec une barbe de trois jours, une cravate pas très bien nouée et une bouteille de vodka posée à ses pieds, sans doute en référence aux photos qu'on a vues dans la presse People de ses sorties nocturnes en boîte de nuit. Le même sujet est à la une du quotidien gratuit 20 minutes. Exaction, virgule, réaction. Après les violences et dégradations commises lors de l'acte 18, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté des mesures strictes en matière de maintien de l'ordre public. C'est à la une de 20 minutes. Même sujet avec cette mine très très grave, une grande photo d'Édouard Philippe à la une de Libération contre les Gilets jaunes, la grosse artillerie Libération, le journal qui nous parle du saccage des Champs-Élysées et des mesures musclées prises par l'exécutif. Le Dauphiné Libéré, côté presse quotidienne régionale, s'interroge. Est-ce que cette réponse est à la hauteur? Suffit-il de limoger le préfet de police de Paris pour rétablir l'ordre? Et puis... dans son éditorial, à la une de la Charente Libre, Maurice Bontinck répond carrément « une réponse seulement bonne pour la casse ». Voilà ce qu'il pense de la réponse apportée par l'exécutif. À la une de la Nouvelle République des Pyrénées, il y a ce dont on parlait dans le journal, les grèves dans l'éducation nationale, perturbation à prévoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire mardi 19 mars, on est déjà demain dans le journal. On le disait dans le journal, à peu près 4 enseignants sur 10 devraient faire grève ce mardi. Et puis à la une des dernières nouvelles d'Alsace, les niches fiscales, un sport national. Les niches fiscales profitent d'abord aux 1000 riches contribuables parisiens qui se partagent 27 millions d'euros. La métropole de Lyon arrive en deuxième position. C'est ce que nous disent les dernières nouvelles d'Alsace. Enfin, si vous voulez savoir ce qui se prépare du côté de la réforme de l'assurance chômage, il faut lire Ouest France. C'est à la une du quotidien du Grand Ouest. Il est 22h30, voilà pour les journaux et pour le journal du soir d'Europe 1. Bonsoir Sophie Peters.
Bonsoir François.
Vous prenez le relais pour la libre antenne, mais je ne reste pas trop loin.
Absolument, et je vous le repasse dans quelques instants, tout à l'heure.
À tout à l'heure.